Là, maintenant, je suis sûr de ma production. J'ai une production linéaire tous les jours. Même qualité, même quantité. Bien. Comme j'ai pas envie de courir sur les routes, j'aime bien rester dans mon petit village et tourner autour, graviter d'un rayon de 15-20 km. Donc l'option, c'était de rester avec 35-40 bêtes et de faire de l'agrotourisme, faire vendre des lits, des nuitées.
Histoire de terre. Jean-Marc Bilbeau élève des chèvres à Royères de Vassivière. Après avoir travaillé dans l'industrie du bois à travers le monde, il a repris cette petite exploitation en 2004, avec l'idée de compléter la production de fromage par de l'accueil de touristes. L'exploitation est nettement excédentaire, avec des fromages vendus sur place, sur les marchés des communes alentours, dans les petits commerces et dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, il cherche à prendre sa retraite et donc à vendre son affaire. Nous avons fait avec lui le tour de la ferme, la chèvrerie avec les 40 alpines et les cabanes, gîtes et yourtes en bardage bois, qu'il a petit à petit construit sur les terres, à la sortie du bourg de Royères vers le lac de Vassivière.
Je suis éleveur de chèvres depuis 2004 et en même temps je fais d'agrotourisme. J'ai une quarantaine de mères et je transforme environ 20 000 litres de lait par an.
Ça c'est considéré comme un quoi, petit élevage, élevage moyen ?
Oh, c'est un petit élevage, une petite transformation traditionnelle. On peut trouver encore plus petit, mais bon, pour être viable, il faut quand même, je pense, autour de 35, au moins 35 chèvres pour arriver à être viable, pour arriver à s'en sortir annuellement. Même si on veut aller les passer à l'herbe ou les laisser en nature, il faut quand même un minimum de production. Sans pour autant être obligé de pousser les bêtes au niveau de la nourriture pour avoir toujours un peu plus de litrage en fin d'année.
Vous avez quoi comme surface ?
Alors, j'ai 17 hectares et demi en propriété et en fin de compte, j'exploite à peu près 40 hectares pour faire les fourrages.
40 hectares juste pour le fourrage ?
Oui, à peu près.
Et ça veut dire que les chèvres, sur la pâture, en direct, je ne sais pas comment on dit, oui, le pâturage.
Le pâturage.
C'est sur les mêmes parcelles, mais en rotation.
Alors, les chèvres ne sortent plus. Ils sont en stabulation, en permanence. Il n'y a que les brebis qui sortent et qui sont en pâturage dans les prairies.
D'accord. Été comme hiver.
Été comme hiver. Par contre, l'hiver, elles rentrent quand même. Elles viennent à l'abri pour les nuits. Et je leur exclus les pâturages mécanisables au printemps, de façon à pouvoir faire du foin dans les mois de juin, juillet. Et ensuite, elles retournent sur l'ensemble de la propriété.
Les brebis. Ouais.
Il y a un élevage, une trentaine de mères brebis, viande. Ah
oui. Avec cette surface-là de prairies mécanisables, vous arrivez à être autonome en fourrage pour l'année ?
Alors, je suis un peu plus qu'autonome, parce que j'en ai tout le temps un peu à vendre, puisque je fais à peu près au moins 30% du foin en trop tous les ans.
Oui, 30%.
Bon. Il y a des années où il faut mieux peut-être le garder, parce qu'on ne sait jamais d'une année sur l'autre. Donc je vends toujours, quand je vends du foin, je le vends à 2 ans, de façon à avoir une couverture.
Et donc les bêtes, elles sont nourries au fourrage. Vous cultivez pas de céréales ?
Alors non, pas de céréales. Il n'y a aucun intérêt à faire de céréales sur le plateau.
Parce que c'est dur à faire venir ?
Si, c'est dur à faire venir, quand on a des hivers trop froids, donc on n'a rien. On a une saison qui démarre quasiment au mois de mai, juin, donc les céréales, hormis peut-être le seigle qui pourrait à rigueur peut-être venir, mais bon, c'est pas d'aliment spécial pour la chèvre. Donc je préfère prendre des aliments tout préparés à l'extérieur. Et j'ai la quantité que je veux. Donc, alors que si on essaye de produire, très rarement on a les volumes nécessaires.
Donc elles sont complémentées un petit peu en céréales. C'est surtout lié au fait que c'est pour la production de lait. Ou est-ce que, de manière générale, les chèvres ont besoin d'être complémentées ?
De manière générale, à partir du moment où elles ne sortent pas, il faut qu'elles soient quand même complémentées. Mais en ce moment, là, on est en période de gestation, donc elles ont un complément qui est spécial pour la gestation. Et dans le mois qui vient, il y aura les naissances, et elles auront un complément qui sera plutôt orienté sur la production laitière. Et tout bon... en sachant qu'elles ont des... au grand maximum 800 grammes de compléments par jour, donc c'est pas énorme par rapport à ce qu'une chèvre consomme.
Parce que quand vous dites moi je les pousse pas, ça veut dire quoi, ne pas pousser ces bêtes?
Alors, pas pousser ces bêtes, en complément alimentaire, ne serait-ce que ça, il y a certains éleveurs qui vont à 4 ou 5 kilos d'aliments par jour, complémentaires. Moi, ils sont à foin à volonté. Et complément alimentaire, c'est à peu près 800 grammes par jour. Dans la période, la première partie de la lactation, parfois, ils ont 400 grammes de plus. Et je vais des fois jusqu'à 1,2 kg. Mais c'est le grand maximum. Et c'est sur une toute petite période, c'est à peu près 2 mois, grand maximum.
Et alors, vous disiez qu'aujourd'hui, maintenant, elles ne sortaient plus du tout, elles étaient toujours à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'avant, elles pâturaient à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a fait changer votre pratique?
Alors, un changement de pratique, c'est... Il y a plein de facteurs qui m'ont poussé à changer la méthode de travail. Un, tout ce qui était le parasitisme, puisqu'on est dans une zone, on a beaucoup de zones humides, et on a les zones sèches sur les plateaux, et puis les zones humides. En sachant qu'au printemps, comme je me réserve le foin sur les plateaux pour toutes les parties mécanisables, donc elles allaient dans les zones humides, et c'est les zones qui sont les plus parasitées. Donc il y avait plein de soucis de parasites gastriques et autres. Et le deuxième point, c'est qu'une chèvre, ça va où ça veut, qu'il y ait des clôtures ou pas de clôtures, on court tout le temps après. Donc... tant qu'on peut courir, ça va très bien. Quand on court un peu moins vite, on reste, on les laisse au chaud. Et puis, il y a le fait aussi de la production. Là, maintenant, je suis sûr de ma production. J'ai une production linéaire tous les jours. Même qualité, même quantité.
En termes de quantité et de
quantité
lait.
Et qualité. Alors qu'en fonction des saisons, dès qu'on les met au pâturage... il pleut, elles ne mangent pas, donc elles vont produire moins. Il fait trop chaud, elles produisent moins, parce qu'elles ne mangent pas non plus, elles se mettent à l'ombre. Et en fonction de l'herbe, il y a les diarrhées, il y a plein de choses qui arrivent, et que là, on ne retrouve pas. Donc j'ai un produit qui est linéaire toute l'année, comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à travailler après au niveau de la fromagerie. Parce qu'on n'a pas à se poser de questions tous les jours, c'est le même fromage qu'on a à faire avec le même cahier. Il n'y a quasiment pas de différence d'une journée sur l'autre, alors que dans les autres cas, c'était tout le temps dans de scie. On ne savait jamais les volumes qu'on allait avoir, la qualité qu'on allait avoir et comment on allait le traiter.
Et au niveau des saveurs, vous y retrouvez les mêmes choses qu'avant ou...
On retrouve les mêmes choses parce qu'en fin de compte, les fourrages sont des fourrages produits sur la ferme. Et comme c'est quand même c'est ce qui consomme le plus, ça change pas grand chose, excepté éventuellement les années où on a vraiment des mauvais fourrages, donc le lait est un peu moins de bonne qualité. Mais bon, jusqu'à présent, on arrive à faire quand même des fourrages de bonne qualité.
C'est marrant parce que sur les histoires de... Vous parlez des histoires de parasitisme, qui était une des raisons qui vous avait fait rentrer. Moi, j'aurais imaginé que c'était l'inverse, que le fait d'être à l'extérieur, ça les aidait plus à se débarrasser des parasites. Mais c'est pas... ça marche pas comme ça.
Non, hein. Non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fin de compte, la plupart des parasites, c'est des genres de petits vers qui se multiplient par... dès qu'il y a les excréments, ça tombe au sol, il rentre dans le sol, donc il change de phase au niveau du métabolisme, et après il remonte dans l'herbe. Et la bête le réingère. Et là, en fin de compte, on multiplie, s'il y en a un qui tombe au sol, on multiplie le nombre de parasites qui arrivent au niveau de l'estomac et puis surtout du foie pour certaines bestioles.
Mais c'est pas le même problème dans la paille en intérieur?
Non, en fin de compte, il n'y a quasiment plus de parasitisme dans les matières sèches. Le foin est sec. Ben oui, parce que les parasites, c'est l'humidité qui les aide à vivre. À partir du moment où on a des foins secs et propres, comme la paille, c'est pareil, il y a très peu de parasites dedans. Dans la phase de développement du parasitisme, c'est trop tard, ils n'existent plus là, à ce moment-là.
Alors vous avez choisi des alpines? C'était un choix d'avoir ces chèvres-là ou...
Ah oui, parce qu'en fin de compte, on a la possibilité, on le voit dans la région, il y a des massifs centrales, il y a la Sanène, la Poitevine, il y a quelques races qui à droite et à gauche. Mais en fin de compte, on se retrouve avec... par exemple, la Sanène, qui produit beaucoup de lait, mais qui, au niveau rendement fromager, est moins intéressante. C'est un peu le compromis, l'alpine. Parce qu'on a la même chose aussi avec la Poitevine. La Poitevine, elle a d'excellentes qualités au niveau fromagère. Mais par contre, au niveau volume de lait, c'est un peu moindre. Donc là, on est sur un compromis entre toutes ces races-là. On a la même chose avec la petite Massif Centrale. La Massif Centrale, elle ne produit pas beaucoup. Elle a une excellente qualité fromagère. C'est d'excellent fromage. Mais bon, il y a le volume qui n'est pas en face, malheureusement.
Et la race, ça joue sur aussi les histoires de parasitisme, sur ce qu'elle mange?
Non. De toute façon, quelle que soit la race, les parasites, elles les attrapent pareil. Hein. Si on les met à l'herbe, elles ont les mêmes parasites. Bon, il y a certaines races qui sont certainement plus résistantes que d'autres aux parasites. Bon, entre autres, l'alpine, elle se marie bien avec un peu tous les secteurs géographiques, un peu toutes les zones géographiques. Donc, c'est aussi une des raisons. Et puis bon, je trouve que moi, c'est un bon compromis entre la production et la qualité du produit.
Donc c'est plus au niveau de la conduite d'élevage que tout se joue, dans les choix qu'on fait.
Oui, et puis c'est aussi plus facile de trouver des sujets jeunes, comme je fais pas de renouvellement propre en alpine, que dans les autres races.
Ça veut dire que vous achetez à chaque fois des...
J'achète systématiquement des jeunes...
Des chevrettes.
Oui, des chevrettes par lot d'une douzaine, entre 12 et 14 à chaque fois, de façon à renouveler le cheptel.
Et alors, c'est les chevreaux et chevrettes qui naissent chez vous, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Ils vont en station d'engraissement.
Ah oui, les chevrettes.
Même les chevrettes dans les 8 premiers jours.
Et alors pourquoi les chevrettes, vous ne les gardez pas?
Alors en fin de compte, c'est surtout aussi une histoire de coût et puis de travail. Puisque pour élever des petites bestioles, il faut passer du temps, il faut aussi du lait. Parce que moi, le lait, moi, il est destiné quand même à la base pour faire du fromage, pas pour nourrir les petits. Et quand on voit le prix du lait en poudre, par exemple, ça revient excessivement cher à avoir des chevrettes à 8-9 mois, prêtes à être saillies au bout de 8 mois, 8-9 mois. Hein. C'est plus économique que de le faire aux autres. Hein. Parce que ceux qui le font sont spécialisés là-dedans aussi. Ils sont spécialisés pour faire de la chevrette laitière.
Donc là où vous achetez vos chevrettes donc chaque année, vous achetez des chevrettes chaque année?
Non, pas tous les ans, tous les 2-3 ans, je renouvelle, quoi. Je renouvelle un lot. Et
qui est-ce qui... C'est un autre éleveur qui est spécialisé dans l'élevage de petites chèvres.
Voilà.
D'accord.
Oui. Il y en a qui se spécialisent, qui renouvellent, eux, leur cheptel comme ça, par déjà... Le fait qu'ils font une insémination artificielle, donc ils peuvent choisir les reproducteurs plus facilement et ils peuvent améliorer le troupeau plus facilement que quand on a un bouc dans l'élevage.
C'est-à-dire donc, qu'ils sélectionnent des caractéristiques sur les mâles?
Sur les mâles, au moins,
sur
oui,
sur
le reproducteur mâle, voilà. Mmh.
La traite, ça se passe comment?
Alors, la traite, j'ai 4 postes de traite et les chefs viennent dans la fosse. Et en fin de compte, j'ai 4 postes, donc ça fait 8 chèvres traites à la fois.
D'accord. Il y a une machine à traire.
Il y a une machine à traire, voilà. Oui, parce que la main, non. Je suis pas d'accord.
À 40, ça commence à faire.
Oui, ouais, non, mais c'est très court. Allez, en 5-6 minutes par chef, c'est bon. Ouais.
2 traites par jour?
2 traites par jour.
Toute ouais. L'année.
Pas toute l'année, parce que dès le mois de septembre, je passe à une traite par jour et progressivement je diminue jusqu'au 15 novembre. Sauf certaines années, comme c'est 2016, où en fin de compte, ils m'ont emmené jusqu'au début janvier en production. Donc, Mais en théorie, normalement, au 15 novembre, on arrête la production de façon à ce qu'elles puissent se reposer. Et comme elles sont en gestation, qu'elles aient au moins 2 à 3 mois de repos.
Congé maternité.
Congé maternité, voilà. Et puis, ça fait aussi un repos pour le bonhomme.
Grande vacances.
Ouais, grande vacances. Mais bon, sachant que moi, j'arrête quasiment jamais, parce que... Je congèle une partie de mon cahier et puis je prends du lait chez un collègue pour compléter.
Ferme la porte.
Oui, s'il vous plaît. Radio Vassivière, la radio qui entre dans les fromageries.
Moi, je fais 3 types de fromages. Donc du lactique. Alors, bon, tout ce qui est crottin, le chèvrefeuille, en fin de compte, c'est la même chose que le crottin, mais un plus gros. Je fais des pyramides, des bûchettes. Tout ça, c'est du lactique. Et deuxième production, qui est la production de printemps, en fin de compte, c'est au moment où il y a le pic de production. Je fais de la tome de chèvre, jusqu'en général, jusqu'au mois de juin. Fin juin, début juillet.
Parce que pour la tome, il faut une grande quantité de lait d'un coup.
Il faut beaucoup de lait. Et comme la commercialisation de la tome, c'est surtout pour les vacanciers. C'est pour les touristes surtout. Et le démarrage, c'est allez, 15 mai à peu près, le démarrage des activités touristiques, où en fin de compte, on commence à avoir vraiment du public. Et de février, au moins début mars, jusqu'au mois de mai, on a le temps de fabriquer déjà un peu. Et pour la tome, il faut au moins 2 mois de maturité. Donc je fabrique tout le temps un peu de lactique, à peu près 2 jours par semaine, et tout le reste passe en tome, voire aussi en camembert, camembert de chèvre.
Ah, c'est ça, le troisième type de fromage, c'est le camembert
de fromage.
De chèvre.
Voilà.
Donc tout ça affiné dans
L'affinage, c'est simple. Pour le lactique, il y a déjà quasiment plus de la moitié qui passe en vente au frais. Et le reste est affiné. Et en fin de compte, il ne reste quasiment jamais rien, puisque en demi-sec et ensuite en sec. Le sec, c'est vraiment dans les périodes où il n'y a pas beaucoup d'activité. Sinon, en pleine période d'été, il n'y a jamais de sec.
Vous avez une cave d'affinage?
Pas spécialement, en fin de compte, j'ai des locaux qui sont ventilés, c'est des locaux qui sont construits en Creuse, d'ailleurs. Mais c'est les établissements, je crois, d'Agar, qui devaient être du côté de Boussac, qui fabriquent ce type de bâtiment. Et il y a des pièces qui sont affectées, une pour tout ce qui est tome, et une qui est pour tout ce qui est lactique, de façon à ne pas mélanger toutes les bactéries, que ça, chacun dans son petit coin. C'est pas les mêmes bases pour travailler.
C'est des ferments que vous achetez ?
Non, c'est ferments naturels. Moi, j'achète que ma levure, ma présure pour le caillage.
D'accord.
Et quel que soit le type de fromage, c'est tout le temps la même présure.
Et alors, qu'est-ce qui fait ? Parce qu'autrefois, quand on avait un élevage laitier, j'imagine au début du siècle, les gens ils achetaient pas de présure, ils utilisaient, alors je sais plus ce que c'est au départ. C'est,
bah, c'est... Par contre, c'est de la présure, mais qui vient de la caillette du chevreau. Ouais. Et en fin de compte, c'est un élément qui dégrade le lait de façon et qui le permet la digestion, donc le caillage. Et là maintenant, c'est des matières synthétiques.
Parce que c'est plus simple pour...
C'est plus pour simple à avoir, on n'a pas besoin de tuer la bestiole, déjà. C'est plus simple à avoir et industriellement, c'est plus facile à gérer. Parce qu'en plus, ça se conserve, alors que dans l'autre cas, ça ne se conserve pas très bien. Donc, moi, je travaille tout le temps avec le même type de produit, et comme ça, j'ai une régularité aussi en production et en qualité.
Passer combien de temps en fromagerie par jour ?
Fromagerie, 2 heures le matin et 1 heure le soir. Donc c'est pas énorme.
Hein. Et j'imagine qu'il y a de plus en plus maintenant de normes sanitaires sur la fromagerie.
Oui.
Ça devient pas contraignant justement dans l'activité fromagère ?
Ça devient c'est contraignant, mais bon, à partir du moment au niveau salubrité, on fait le maximum. On s'y habitue aussi à avoir les bons gestes et à faire attention. Si on est propre dès le départ, il n'y a pas de gros risques. Bon, de toute façon, nous, les fromages, on a des obligations au niveau des analyses. Moi, je suis à peu près à une analyse par mois. C'est pas énorme. Et... jusqu'à présent, je touche du bois, mais j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. De toute façon, les soucis, on les voit dès le caillage. S'il y a un souci, on se casse pas la tête. Moi, je suis pas à un saut près. C'est le cochon qui fait le reste. Ça le gêne pas que le lait soit acide ou pas acide, il le prend.
Du coup, pour le petit lait, vous avez des cochons.
Voilà. C'est la station d'épuration. Donc, le cochon, lui, il préfère. Il aime mieux ça. Et moi aussi. Parce qu'à la fin d'année, bon, il y a au moins quelque chose, alors que dans l'autre cas, c'est perdu.
On va peut-être s'intéresser à la partie gîte.
Oui. Eh oui, j'ai des gîtes, j'ai 25 lits. Donc on va aller faire un tour aussi, si on n'est pas emporté par le vent.
Aujourd'hui, ça souffle.
Oui, ça souffle. Pardon.
On vous suit.
Ouais, je suis juste étonné. Hop, là.
Vous accueillez beaucoup de monde qui vient vous acheter des fromages ici ?
Ah, l'été, oui. En ce moment, c'est calme. Mais l'été, c'est... à partir de 4h30, sortie de la plage, ça bouchonne un peu.
On est tout proche du lac de Vassivière, ici.
Et on est à quoi ? À moins de 4 km du lac, et bord de route, entrée du village. Donc c'est difficile de rater. Et comme il y a, je pense, un bon fléchage...
Après, on va boire l'apéro à l'atelier.
Voilà,
à
et après, on peut aller voir casser la croûte à l'atelier. Bon, les autres sont occupés, mais bon. Et celui-ci qui est pour l'instant qui est libre.
Alors là, on est dans une petite maison que vous avez construite.
Ça, c'est un gîte d'étape, alors qui est destiné en priorité aux marcheurs, randonneurs, que ce soit à pied, à cheval, à vélo. Donc c'est un dortoir, 8 voire 10 places. En même temps, ça sert de salle de réception, puisqu'ils peuvent être jusqu'à 25, 30, avec les différentes tables pour casser la croûte. Donc il y a ce gîte-là. À côté, il y a deux autres gîtes de 4 places, avec chacun une chambre familiale et une chambre de lit. Équipé. C'est du bas de gamme, disons. C'est pas... Il y a tout le nécessaire, mais c'est pas... C'est pas du haut de gamme. Il y a le minimum.
Mais vous en êtes content quand vous dites que c'est du bas de gamme,
Moi, c'est ce que je cherchais, parce qu'en fin de compte, je cherche une clientèle... Je fais plutôt presque du social. Et je suis plutôt un peu dans ce sens-là.
Du tourisme social.
Un peu, oui. C'est plutôt un peu ma vocation. Je ne cherche pas à avoir des clients huppés. Déjà, ne serait-ce que par les prix. Là, c'est, par exemple, ici, c'est du 9 euros la nuit par personne. Et les autres, c'est à peu près les mêmes genres de tarifs, puisque c'est quand même loué... Au meublé, mais je crois une nuit ça doit être, je crois, 60 euros, quelque chose comme ça pour 4 personnes. Et puis après, c'est dégressif, donc les prix sont dégressifs. En ce moment, on doit être en chalet à 200 euros la semaine, donc c'est pas des tarifs excessifs.
C'est vous qui vous occupez de tout ça là? Commercialisation, faire la publicité aussi. J'imagine quand on a des gîtes, il faut que ça soit sur des sites internet, dans des annuaires, pour que ça. C'est du travail aussi de les faire connaître et puis d'accueillir les gens, etc. Vous pouvez en parler un peu?
Oui, ben, moi je le fais. Il y a mon épouse qui m'aide un petit peu sur la partie, surtout nettoyage.
C'est original, mais, ça.
Oui, c'est.
Très original.
C'est machiste, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, sinon, j'ai un site, je suis répertorié, je suis accueil paysan, et je ne fais pas spécialement beaucoup de démarches commerciales, dans la mesure où, déjà, ne serait-ce que l'été, on est plus à refuser des clients qu'en en chercher. Et puis le reste de la saison, hormis là, des périodes comme vraiment hivernales, là, on ne cherche pas non plus à remplir en ce moment. Déjà, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part aller marcher autour. Il n'y a pas d'activité spéciale. Donc, je ne cherche pas spécialement à les remplir en ce moment. S'il y a des opportunités, je les prends, mais c'est tout.
Ça serait intéressant que vous parliez de comment vous en êtes venu au tourisme.
Je suis fils de paysan en Sologne. C'était plutôt céréalier et éleveur de bovins. Et c'était une branche qui ne m'intéressait pas spécialement quand j'avais 20 ans, même avant. Mais bon, j'ai quand même fait des études agricoles. Et l'orientation était au départ d'être conseiller agricole. Chose qui s'est pas fait, et je suis passé dans la branche de l'industrie du bois, en charpente industrielle et maison ceinture bois, où j'ai travaillé quasiment pendant 15 ans avant de passer comme responsable de la filière bois à l'île de la Réunion. Et c'est l'endroit où, en fin de compte, j'ai travaillé pour les agriculteurs pour développer le tourisme rural. En les aidant à concevoir des gîtes et une autre activité que l'activité agricole, donc là-bas, la canne à sucre. activité qui était complémentaire pour les plus petits, puisque les gros n'ont pas spécialement besoin de ça, mais les plus petits agriculteurs qui n'avaient qu'un hectare ou un hectare et demi de canne à sucre, ils ne pouvaient pas vivre avec ça, donc l'idée était de développer le tourisme avec eux. Et l'État, à l'époque, dans les années 90, a très largement contribué à les aider en subventionnant quasiment à 80% les constructions. Et comme j'étais l'animateur de la filière, je concevais les plans, je faisais les formations pour la construction et on les soutenait dans leur première année de démarche commerciale et puis comptable. Donc, quand je suis parti de La Réunion, je suis parti avec quelques dossiers, avec dans le secret espoir d'être retourné à l'agricole et de faire aussi de l'agrotourisme, chose qui m'intéressait. Et en 2004, quand je suis rentré de La Réunion, j'ai trouvé une exploitation là sur Royère et j'ai tout de suite commencé par développer du tourisme sur l'exploitation en créant une première tous les ans un chalet de façon à soutenir en fin de compte un projet viable financièrement parce que la chèvre avec 35 chèvres c'est juste on y arrive mais il ne faut pas déraper et le tourisme apporte quand même un complément à l'activité.
Sinon, l'alternative, c'était avoir un plus gros troupeau, c'est ça?
Oui, l'alternative, c'est d'avoir un plus gros troupeau. Sauf que pour avoir un plus gros troupeau, après, il faut du personnel et il faut aller chercher la clientèle beaucoup plus loin. Comme je n'ai pas envie de courir sur les routes, j'aime bien rester dans mon petit village et tourner autour, graviter d'un rayon de 15-20 km. Donc l'option, c'était de rester avec 35-40 bêtes et de faire de l'agrotourisme, vendre des lits, des nuitées.
Est-ce que vous auriez pu aussi vendre à la grande distribution, par exemple?
Mais je vends à la grande distribution aussi, je vends à la petite distribution, je vends un peu partout, un peu tout ce qui bouge. J'ai des fromagers, j'ai des grandes surfaces, j'ai des petits magasins de proximité, des restaurants...
Ah oui, donc déjà, avec 40 chefs, ça demande déjà un gros travail de commercialisation.
De commercialisation, oui. Mais bon, les clients, c'est pas moi qui les ai démarchés, c'est eux, la plupart du temps, qui m'ont démarché.
Ok. Donc ils sont venus vous chercher
Ils sont venus me chercher. Donc, parce que moi, je me trouvais bien avec ma clientèle sur les marchés, et ça me suffisait. Mais bon, s'il faut prendre un peu plus, ben je prends un peu plus.
Et quand on est venu vous démarcher, donc vous avez augmenté votre troupeau ou...
J'augmente tout le temps un petit peu le troupeau. Tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est en fonction des années. Et puis quand il n'y en a plus, ben il n'y en a plus. Que ce soit pour la grande surface ou le petit magasin de proximité, quand il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de fromage. C'est point.
D'accord. Donc l'histoire des gîtes, c'était pour pouvoir avoir une souplesse dans le travail, enfin avoir un troupeau moins grand et en même temps un revenu suffisant.
Voilà, oui, ça permet de vivre correctement sans trop avoir à faire de travail, puisque une fois la construction faite, après c'est que de l'entretien, c'est faire le ménage et assurer les prises de commandes. Donc, et comme j'ai quand même une diversité de bestioles, entre les moutons, les chèvres, les ânes, les cochons, les poules, et puis peut-être le reste, donc y a un public qui recherche.
Un public qui recherche d'être dans une ferme, oui.
Oui.
Non, pas seulement d'être dans un gîte à la campagne, mais aussi dans une ferme.
Oui, il y a une bonne partie du public qui recherche ce type d'hébergement. Pas spécialement pour participer aux travaux de la ferme, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un public qui cherche aussi ça, participer. Bon. On essaye de pas trop, parce qu'il y a plein de risques, le matériel, les outils et tout ça. S'il y a un accident, qui est responsable? Donc, bon. Un petit peu, mais pas trop.
C'est qui vient ici en vacances?
Oh, des familles. Il y a des familles. Après, il y a tous les spécialistes qui recherchent le lac, donc les pêcheurs, les chasseurs, tous les marcheurs. Et puis, bon, je suis aussi point équestre, donc je reçois aussi les cavaliers, puisque dans le secteur, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'exploitation qui peuvent recevoir les chevaux pour les randonneurs.
Quand on fait de l'agriculture et de l'accueil en gîte, on ne doit pas dépenser un certain chiffre d'affaires en tourisme. Il y a quelque chose comme ça, non?
Oui, malheureusement. On a droit à 30% de revenus autres qu'agricoles dans notre chiffre d'affaires.
C'est quoi cette réglementation? Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi?
Alors, je pense que c'est pour éviter les dérives, pour rester quand même agriculteur. C'est surtout au niveau fiscal.
Alors, okay. Vous voulez vendre?
Eh oui, j'ai plus de 60 ans maintenant, il faut passer à autre chose. Donc je recherche un repreneur sur les deux activités, que ce soit le tourisme et sur la partie agricole, en sachant qu'on ne peut pas différencier les deux, puisque tout est imbriqué l'un dans l'autre. Ça fait déjà quelques années que je recherche, mais le problème c'est quand même la valeur du produit qui coince au niveau des banques.
C'est-à-dire?
Mais l'exploitation, c'est 17,5 hectares, donc c'est pas énorme. Il y a 35 chèvres, il y a le matériel. Mais à côté de ça, il y a les chalets, il y a les yourtes, il y a la partie camping, il y a toute cette partie-là qui viennent gonfler la valeur du site.
Et dites combien vous en demandez, hein. Jamais, ça peut intéresser les auditeurs de Radio Vassivière.
Mais c'est affiché à 450 000 euros.
Et donc, pour un élevage de chèvres avec une trentaine de chèvres et 17 hectares, c'est un peu cher. C'est ça que dit
c'est voilà, pour quelqu'un qui veut faire que la chèvre, c'est cher. C'est, pour ce type de produit, pour la chèvre uniquement, ce serait autour de 200-250 000 euros à peu près.
Vous voyez donc des jeunes éleveurs qui se disent pourquoi pas, et par contre qui n'ont pas du tout cet argent-là pour reprendre l'ensemble, quoi.
Et oui, tout à fait. Le problème des jeunes éleveurs, c'est financièrement, ils ont travaillé 10 ans ou 15 ans. Et c'est impossible qu'ils aient capitalisé ne serait-ce que la moitié de la somme. Parce qu'après, si vous ne présentez pas au moins la moitié de la somme, la banque ne va pas vous suivre sur ce montant-là.
Vous allez jamais vendre, alors?
Si, je vais vendre. On va finir par trouver. Si, il y en a quelques-uns qui sont sur les rangs, mais c'est pas finalisé.
Donc ce sera plutôt des gens qui sont en reconversion, un peu comme, qui ont eu un parcours un peu comme vous, qui ont eu une autre activité auparavant, qui ont réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir investir.
Voilà, donc ce sera certainement ce type de personne qui est certainement un couple qui a déjà capitalisé, qui a déjà une maison, déjà quelque chose comme ça, et qui peut mettre ça au moins ça en face. Et là, la banque devrait normalement suivre, parce que moi, les chiffres sont disponibles, ils sont relativement bons. Ils sont en progression depuis le départ. Et il y a encore de la marge dans la mesure où je travaille tout seul. Travailler à deux, on peut passer déjà...
Il y a votre femme qui nettoie les gîtes, quand même.
Oui, ma femme nettoie les gîtes. Mais bon, c'est que sur cette partie-là. Sur la partie élevage, elle ne touche quasiment pas, excepté la partie été, pour la vente directe ici, quand je suis sur les marchés, des trucs comme ça. Donc, elle supplée le manque de personnel.
Le chiffre, comment le compte du résultat est positif, c'est ça, c'est une exploitation qui vous fait gagner de l'argent.
Ah oui, c'est une exploitation qui me fait gagner de l'argent. Sinon, je ne le ferais pas, j'aurais arrêté depuis longtemps.
Ah, il y a des gens qui continuent à perdre de l'argent pendant plusieurs années, hein, notamment dans l'agriculture.
Oui, ben, je ne suis pas dans ce cas-là, moi, j'aurais arrêté depuis longtemps. L'argent, c'est quand même important, et travailler pour rien, ce n'est pas mon truc. J'ai été dans l'industrie, donc je sais un peu comment ça fonctionne, et ce n'est pas mon cas. Là, moi, je travaille actuellement, j'ai un EBE qui doit être supérieur à 20 000 euros.
C'est quoi un EBE ?
Alors, en fin de compte, c'est la capacité de l'entreprise à assumer éventuellement un salaire ou quelque chose comme ça, en sachant que je me verse quand même un salaire en parallèle. Et j'ai un fonds de roulement qui est supérieur à presque à 2 ans. Donc je pourrais presque arrêter pendant 2 ans d'avoir des entrées et je pourrais continuer à tourner. Donc ça veut dire que l'affaire tourne.
Vous êtes conscient que dans l'agriculture, il y a quand même des gens qui s'en sortent beaucoup moins bien. C'est-à-dire que vous côtoyez des éleveurs en difficulté
Ah oui, 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 j'en côtoie tous les jours. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on en pense. Même de gros éleveurs qui sont endettés jusqu'au cou, malheureusement.
Ça vient d'où, à votre avis ? C'est qu'au départ, ils n'avaient pas le capital suffisant pour investir ou...
Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi, c'est la course à l'armement. On veut toujours avoir plus gros, de façon à dire on va faire plus de chiffres. Mais pour faire plus de chiffres, il faut avoir plus de matériel, il faut avoir plus de bêtes, et ainsi de suite. Et c'est une course éternelle contre l'argent. Et en fin de compte, on est tout le temps perdant dans ce cas-là.
Donc votre logique, c'était de dire je fais une exploitation de taille raisonnable où je maîtrise les entrées et les sorties et
oui, c'était ça.
Ne demande pas trop d'investissement.
Voilà, c'était surtout pas trop d'investissement, des investissements qui soient rentables et puis limiter au maximum les dépenses en matériel et autres qui, en fin de compte, sont pas très importantes parce que moi, ça ne me gêne pas d'avoir un vieux tracteur et pas avoir un truc tout flambant neuf. Ça me gêne absolument pas. Je n'ai pas de soucis de ce côté-là au niveau des égaux.
Et vous avez... est-ce que vous touchez encore des aides ? Est-ce que vous avez eu des aides pour l'installation des gîtes, par exemple, sur la partie élevage ? Est-ce que...
Alors, sur l'installation, en fin de compte, j'ai pas eu d'aide spéciale, si ce n'est la DGA au départ, qui était de
la dotation jeune agriculteur.
Mais qui, en fin de compte, j'étais plus jeune agriculteur quand j'ai démarré, mais il donnait une somme forfaitaire qui était, je ne sais plus la valeur, mais c'était insignifiant, ça devait être 6 ou 7 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour une installation. Et ça doit être à peu près la même chose maintenant, hein, quand on est hors cadre familial et hors des GIA. Et c'est la seule aide que j'ai eue pour l'installation. Les aides qui étaient programmées pour la partie hébergement, j'ai fait une demande, un soutien de la région, normalement. Et comme j'avais demandé en autoconstruction, je devais avoir normalement 50% d'aide par rapport au coût du projet. Et quand c'est passé en commission, c'est arrivé à 30%. Et j'ai refusé la totalité de l'aide et j'ai fait à ma manière sans eux.
Ah oui, vous avez refusé le financement des 30%.
Oui.
Pour quelle raison ? Est-ce que ça vous donnait des contraintes sur la construction ou...
Ça me donnait déjà une contrainte, déjà... par le fait que je devais passer par un réseau, et lequel réseau se réservait l'activité sur une dizaine d'années. Et je pouvais en profiter quoi, une semaine ou deux par an de ce que j'avais, de mon outil. Il ne faut pas trop en parler de ça, parce qu'il y a quelques politiques qui vont se fâcher.
Parce que tout à l'heure, on a discuté, vous disiez que ce qui vous plaisait dans le fait de venir ici, d'être éleveur et de faire du tourisme à la ferme, vous aviez retrouvé votre liberté.
Oui. Et... Mais la liberté a des limites.
Elle a des limites. Donc il y a quand même une institution dans l'agriculture qui...
Il y a des institutions, il y a des élus, il y a un peu tout qui bloque. De toute façon, on le voit chez tous les petits éleveurs. Hein. C'est surtout c'est eux qui trinquent le plus systématiquement. Quand dès qu'il y a une vente ou quelque chose comme ça, parce que c'est les... au niveau des syndicats, c'est les syndicats qui font la pluie et le beau temps hein, au niveau des ventes, souvent.
Alors, et pourquoi c'est les petits éleveurs qui doivent payer un peu les pots cassés, alors que finalement, ils représentent, si c'est des petits éleveurs, on va dire qu'ils représentent peu de dangers pour l'agriculture industrielle.
Mais ils ont des surfaces. Ils ont des surfaces. Et les surfaces sont intéressantes pour les gros. Comme c'est la course à l'armement, tout est bon à prendre.
Alors si vous vendez, vous quittez la région ?
Aucune idée. Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Il n'y a pas spécialement d'attache ici, donc peut-être.
Vous vous donnez combien de temps pour vendre encore ?
Là, un an et demi maximum. J'espère qu'à la fin de l'année, ça sera réglé. Bon, mon épouse, je crois, elle a encore 2 ans à faire, donc...
Elle a un travail.
Un travail à l'extérieur, oui.
Et c'est important pour vous, qui va venir ? Au-delà du prix, vous avez envie qu'il se passe ci ou ça sur cette terre après vous ?
Je souhaiterais que ça soit une suite à l'activité. Parce que ce serait dommage d'avoir travaillé et développé un produit et le laisser à l'abandon ensuite pour faire autre chose. Parce que là, c'est vrai aussi que j'ai vu des clients potentiels, mais qui voulaient faire que de l'élevage, par exemple, équin. Ils voulaient faire des chevaux et du tourisme. Alors, ça me gênait un peu.
Donc vous aimeriez que ce soit quelqu'un qui ait un feeling avec les chèvres également ?
Oui, sans éventuellement, même à la rigueur, peut-être de la brebis, mais continuer au moins à faire de la fromagerie. Parce que c'est toujours pareil, hein, y a quand même une clientèle derrière, et c'est dommage d'avoir... qu'il y ait un marché, et qu'il y ait tout pour... et puis qu'on l'abandonne.
Vous nous avez presque pas parlé des moutons finalement.
Non, c'est une activité un peu pour s'amuser ça. Les moutons sont là uniquement pour occuper le terrain. Je m'en occupe pas spécialement, si ce n'est que je les rentre le soir, je leur donne à manger, à boire, et c'est tout. Les moutons au départ, les brebis, c'était pour voir comment ça fonctionnait ces bestioles-là avec 4 pattes là, et de la laine. Parce que j'avais espoir de trouver un repreneur et travailler pendant quelques années en GAEC. Et comme en GAEC, il faut apporter celui qui rentre dans le GAEC, il faut qu'il apporte une plus-value. Donc l'idée était de dire on va faire du mix, on va faire des brebis laitières. Avec des chèvres laitières, et comme ça on a 3 produits. On a deux fromages purs d'un côté et éventuellement un mixte. Et j'ai jamais trouvé le quidam. Donc pour ça, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait ces bestioles-là. Et du coup, je les ai gardées. J'ai gardé les brebis viandes. En sachant que autrement j'aurais acheté des brebis laitières.
Et vous les vendez à qui en général ?
Les agneaux ? Je vends que les agneaux moi. Les agneaux je les vends à 8-10 mois à des particuliers. Hein. Vente directe. Vivant. Je ne tue pas les agneaux.
Et cette idée de GAEC, c'est parce que ça vous aurait plu de travailler avec quelqu'un d'autre sur la ferme ?
Ça aurait été difficile parce que suis quand même assez individualiste, mais bon, j'aurais fait l'effort de, pendant quelques années, le temps de faire la transition.
Ah oui, c'est dans la perspective de la reprise.
La perspective de la reprise, hein, c'était pas pour travailler à plein temps avec quelqu'un.
Vous avez jamais souffert de la solitude du paysan ?
Non, non. Non, puis moi, avant, j'avais eu tout le temps entre 30 et 40 ouvriers. J'avais marre de... Là, c'est plus facile de mettre un coup de pied au cul à une chèvre ou à une brebis qu'à un bonhomme. Ouais.
Est-ce que vous mettiez des coups de pied au cul à vos ouvriers ?
Non, je ne les mettais pas. Parfois, ça a démangé.
Sinon, vous maltraitez vos animaux ?
Non plus, je les maltraite pas parce qu'ils sont gentils. Sauf quand ils se sauvent, là, quand ils se sauvent, s'ils se sauvent, là, on n'est plus d'accord.
Mais les chèvres, des fois, elles n'ont pas envie d'aller voir dehors ?
Non. Ben, quand elles étaient à l'extérieur, elles étaient tout le temps à droite, à gauche. Bon, c'était le chien qui faisait le sale boulot. Mais... Moi non, parce que après c'est moi qui les traite. Hein. Si on les stresse à la salle de traite, on le retrouve.
Hein. C'est-à-dire
si on vous met une claque, et puis après on vous dit vous donnez le lait, ça va pas pareil. Hein. Donc. Non, les chèvres, on essaye. D'être gentil avec.
Histoire de terre vous emmenait cette fois chez Jean-Marc Bilbeau, qui produit du fromage de chèvre et accueille des touristes à Royères-de-Vassivière et qui cherche à céder son exploitation. Histoire de terre, c'est une heure par mois sur Radio Vassivière, chez un agriculteur ou une agricultrice, en général de la région, un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h.